Bonjour, bienvenue, c'est la bande originale de votre été jusqu'à midi avec Leïla Kadoboudadi, Daniel Moral, Albert Algou et Guillermo Guise. Au programme ce matin, Fabrice Santoro, la bande originale de Sarah Giraudot et en live, Julien Clerc. Le meilleur de la bande originale, c'est maintenant.
Merci.
Monsieur Fabrice Santoro, merci d'être à ce micro. Fabrice, on va parler bien sûr de Roland Garros. Fabrice Santoro étant l'ami de tous les plus grands joueurs du monde. On m'a dit même des vieux, vous avez croisé les plus grands joueurs. Quel est le joueur le plus impressionnant que vous ayez croisé?
Sur un court en compétition, c'est Jimmy Connors.
Jimmy Connors, ouais, d'accord.
Je l'ai joué, il a 20 ans de plus que moi.
Et évidemment, les Nadal, les Federer,
les Sampras, Agassi, les... Becker, Lindell, Kuerten, Moya.
Vous avez joué contre tous ces noms-là?
Tous ces noms-là. Et j'ai pas joué contre la génération Borg-McEnroe.
D'accord. À part des tournois d'exhibition pour rigoler. Vous avez remarqué que j'ai jamais demandé le résultat du match. Père Albert, vous savez pourquoi on a invité Fabrice Santoro?
Mais enfin, Nangui.
Oui, mon père.
Croyez-vous que j'aurais pu oublier la grand-messe du tennis célébrée dans ces temples de la roquette qu'est Roland-Garros?
De la roquette?
La roquette.
Ah, roquette.
Vous savez...
J'étais avec la salade,
L'accent circonflexe facile. Eh bien, un tournoi qui, en ce moment, ne vous laisse guère, d'ailleurs, le temps de préparer les émissions de la bande originale. Pas plus que le reste de l'année, d'ailleurs, mais enfin, particulièrement en ce moment. Ce que m'a confirmé JNB, notre rédac-chef, qui s'est confié à moi ce matin en pleurant des larmes de sang. Père Albert, je n'en peux plus. Depuis le 22 mai, après chaque émission, j'essaye en vain de retenir Nangui pour lui parler du prochain invité. Par exemple, quand je lui ai annoncé que Fabrice Santoro viendrait, il a hurlé « Rien à foutre, rien à battre !» Et il a quitté le studio en bousculant ses fans qui lui demandaient des autographes en leur criant « Pas le temps, je vais à Roland, foutez-moi le camp !» Effectivement, j'ai une bière de quoi s'inquiéter. 40 ans qu'aumônier saisonnier des jeunes ramasseurs de balles.
Votre orthophoniste aussi un peu s'inquiéter sur l'articulation.
Vous avez une balle dans la bouche.
Ouais, je comprends pas tout, mais faites des gestes.
Moi aussi, je les ramasse à ma façon. Et donc, en tant qu'aumônier saisonnier des jeunes ramasseurs de balles, oui, je peux attester la présence de Nangui dans la fameuse tribune présidentielle où il est à tu à toi avec Patrick Bruel et Orlando, tout en se faisant éventer avec des plumes d'autruche par des hôtesses moldaves. Mais passe encore qu'il se passionne pour les matchs où s'affrontent virilement les as du smash et du revers. Ce qui m'a choqué, c'est l'attention soutenue avec laquelle Nangui assiste aux simples femmes, aux doubles femmes, et même aux doubles mixtes, catégorie où Fabrice Santoro s'illustra, jadis, à Roland-Garros, en l'emportant avec Daniela Antuchova.
C'est ça? C'est vrai?
Oui, je confirme.
Ah, mais bien sûr. Oui.
Il fallait quand même pas m'enlever mon seul titre à Roland-Garros.
J'ai eu l'élégance de ne pas le souligner. Oui, j'ai honte de le rapporter, mais j'ai vu Nangui se pâmer en entendant les cris indécents. Que poussent ces boules de vis? Cela en fonction des doses d'anabolisants. C'est pour ça que je suis passé de l'aigu au grave. Parfois, la même joueuse peut passer de l'un à l'autre. Oui, j'ai vu Nangui, le rouge aux joues, suivre avidement du regard le mouvement des jupettes quand, après avoir soupesé les balles d'une main tout en empoignant vigoureusement le manche de l'autre, les tennis woman lèvent, se déhanchent pour servir. Ah, si les balles des joueuses vont parfois au fond du filet, je peux vous dire que Nangui a les siennes constamment.
Oh non, mais arrêtez.
Et comme je n'ai plus le temps
de
vous
collège,
faire...
On a un collège, on a un collège.
Oui, ça m'intéresse, je sais.
Oui, c'est ça. J'ai honte.
Pourtant, t'es...
Elle a beaucoup ri. Et comme je n'ai plus le temps de vous faire le pitch, je vous souhaite à tous...
Mais quel pitch de quoi?
Et à toutes. Roland-Garros. D'habitude, je fais un pitch, donc...
Oui, quand il y a un pitch de Roland-Garros, quand il y a une pièce de théâtre, vous
n'avez pas
faire
le pitch. Et c'est à Roland-Garros.
Ok, d'accord, merci. Merci.
France Inter, les meilleurs moments de la bande originale avec Nangui.
Fabrice Santoro, vous vous souvenez de votre premier tournoi professionnel? Ça remonte à longtemps, c'était où?
Trop longtemps, 1989.
Oui. Il y avait plus de raquettes en bois à l'époque, rassurez-moi.
Alors, non, pas en 89, mais j'ai commencé à frapper mes premières balles donc en 78 avec des raquettes en bois.
C'est vrai. Ouais. Yannick Noah étant le dernier joueur professionnel à avoir gagné Roland Garros avec une raquette en bois. Après, c'est devenu
c'est
du chèque en bois.
Du synthétique. Ça, c'est... Assume tout seul tes vannes. Moi, je vais dire, je connais Yannick, je veux pas avoir de problème. C'est toi qui vas te démerder. D'ailleurs, Yannick, si tu nous écoutes, j'ai le numéro portable d'Albert Agou pour toutes les salades que tu as reçues.
Mais je plaisantais.
Tu pars trop tard.
De
tout le parcours tout à l'heure, on parlait de cette victoire en mixte à Roland Garros que vous aviez eu. Vous avez également remporté la finale de la Coupe Davis en double ensemble avec Cédric Pioline. Vous avez participé et vous avez remporté 70 pardon, vous avez participé à 70 tournois du Grand Chelem, c'est-à-dire vous êtes le seul joueur au monde à avoir disputé 4 décennies et autant de matchs. C'est un record mondial.
Exactement, je crois que je suis le seul joueur à avoir joué des tournois du Grand Chelem sur 4 décennies, donc de 89 à 2010. Le précédent record était détenu par André Agassi qui avait joué 61 Grand Chelem.
Oui, il y avait une perruque, enfin tout ça, il y a eu des scandales. Ouais. Entre
alors que vous, c'est une jambe de bois.
Ce sont vos cheveux, c'est vrai qu'il n'y a rien à voir.
Mais ce record sera battu très
mécaniquement, pourquoi?
Parce que Roger Federer est à 69. C'est pour ça qu'il ne joue pas Roland-Garros, je lui ai demandé de ne pas venir.
Pour que votre record...
Je ne voulais quand même pas qu'il batte mon record devant mon public.
L'engouement du tennis et de ces tournois du Grand Chelem n'a jamais baissé, c'est quelque chose d'essentiel. Alors je ne sais plus vraiment si c'est une valeur sportive ou si ça devient maintenant du marketing, du commercial, et tant mieux d'ailleurs pour ceux qui en vivent et en profitent, mais on a l'impression que c'est un gros barnum de sponsors, de relations publiques. Vous qui avez vécu tous ces tournois, est-ce que c'est la même, la même ruche comme ça qui autour de Wimbledon, autour de l'Open d'Australie et Roland Garros, il y a autant d'activités marketing, publicitaires et
plus sur le tournoi du Grand Chelem comme Wimbledon ou l'Open d'Australie. Après, le sport est devenu beaucoup plus professionnel depuis 20-25 ans, donc j'ai eu la chance ou la malchance de voir cette transformation de 90 à 2010. C'est vrai qu'aujourd'hui, Roland Garros, c'est un immense paquebot. Je crois que le tournoi fait peut-être 350 millions de chiffre d'affaires sur les 15 jours.
D'accord.
Il y a énormément d'enjeux pour les joueurs, énormément de médias qui viennent du monde entier. Moi, j'ai arrêté ma carrière il y a 7 ans. J'ai l'impression d'avoir arrêté il y a 50 ans. À titre d'exemple, les gains...
Les choses sont allées vite.
Ah oui, les gains reversés aux joueurs ont augmenté de 140% depuis que j'ai arrêté ma carrière. Ah,
c'est con.
Dommage. Un petit comeback.
mais voilà, au-delà de ça...
L'augmentation des gains, par exemple, des joueurs. Qu'ils gagnent Roland-Garros et qu'ils gagnent de l'argent avec le trophée, très bien. Pourquoi cette augmentation? Quand il y a une augmentation de gains ou de droits sportifs, c'est parce qu'il y a une concurrence, c'est parce que tel ou tel fournisseur d'accès Internet a voulu racheter des droits. Alors on se dit, tout augmente, tout monte, donc il faut payer plus cher pour avoir les droits. Là, Nadal, Federer, qu'il gagne Roland-Garros ou qu'il ne vienne pas à Roland-Garros, en quoi le fait de dire vous allez gagner beaucoup plus d'argent peut changer le spectacle, peut changer le jeu, peut changer la présence de ces joueurs? C'est un incontournable, c'est un tournoi du Grand Chelem.
Bien évidemment, ce qui compte sur les tournois du Grand Chelem, ce n'est pas les gains reversés aux joueurs, c'est vraiment une ligne sur un palmarès, quoi. Donc Roger Federer, Rafael Nadal et d'autres ne viennent pas à Roland-Garros pour remplir leur compte en banque, mais bien évidemment pour gagner un tournoi majeur. Après, je crois que les joueurs à un moment donné sont pleins, car ils disaient voilà, les tournois du Grand Chelem ont tant de chiffres d'affaires, tant de bénéfices. Finalement, nous, avec
vous gagnez
ces gains-là, on est exploités.
C'est ça, d'accord.
Alors qu'ils étaient déjà très bien payés. Moi, je me plains pas, j'étais très bien payé à mon époque. Donc, ils se sont battus semaine après semaine pour améliorer et augmenter les gains.
Et aujourd'hui, il y a un syndicat des joueurs qui est allé voir les organisateurs en disant au prorata de ce que vous dégagez comme argent, il faudrait que nous aussi on mange.
C'est pas normal que la part du gâteau reversée aux joueurs soit si petite.
Après, parler d'exploitation, c'est quand même toujours un petit peu.
À un certain niveau, si. S'il y en a qui se gavent encore plus, c'est pas normal que.
Oui, non, mais je veux dire, au regard de la vie. Non, mais
il y a 50 ans, les ramasseurs de balles étaient pieds nus. Maintenant, ils ont des chaussures grâce à la révolution.
Homme-femme, d'ailleurs, est-ce que là aussi, il y a un équilibre entre la finale femme remportée, le gain pour une
parité totale.
Parité totale.
Oui. Du premier tour à la finale.
C'est génial. Et ça, c'est récent ou c'est une décision qui a été prise sur les dernières...
Ça va faire une dizaine d'années environ.
D'accord.
Une dizaine d'années, je crois.
Ça fait 9 ans, je crois.
Alors, maintenant, vous êtes... Daniel Morin qui s'y connaît en parité homme-femme.
Mais c'est Fabrice Abgal qui a soufflé la réponse en langue des signes.
Oui, parce que j'ai dit à Fabrice qu'il ne pouvait intervenir que dans une demi-heure, donc il est professionnel, Fabrice. Il dit, ok, je n'interviens que dans une demi-heure. Et il n'est pas là, Fabrice.
Bonjour, Fabrice.
Il plane. Bon, bah, bonjour.
Pour revenir sur l'évolution du sport en général, aujourd'hui, moi, quand j'ai commencé dans les années 90, un joueur est arrivé sur un tournoi avec son entraîneur. Ouais. Basta, ils étaient deux. Vous prenez deux billets d'avion, vous allez jouer un tournoi. Aujourd'hui, c'est des PME.
Des staffs entiers. Ouais.
Alors, ce qui nous intéresse aussi, c'est de savoir justement pour vous, Fabrice, ce qui se passe dans l'après carrière sportive. Parce que mécaniquement, une carrière sportive de haut niveau dure j'allais dire peu de temps, non, parce qu'il commence de plus en plus jeune. Donc en moyenne, c'est quoi? C'est une vingtaine d'années, un peu moins, 15
moyenne
ans.
Moyenne à 12-15 ans, ouais. Je pense.
15 ans de présence sur les cours. Federer risque d'être aussi l'un des joueurs qui joue le plus longtemps?
Probablement, puisque Federer, il a
112
35 ans sur son passeport, mais je dis souvent, il en a 25 dans ses jambes et 15 dans sa tête, donc c'est un avantage colossal.
Physiquement, il est impressionnant?
Il a la fraîcheur mentale d'un adolescent.
Ça, c'est la vie en Suisse, ça.
Non, mais ça conserve, c'est, hein. L'herbe fraîche.
Ouais, c'est ça,
hein. Les pâturages.
Vous les connaissez, vous, en herbe fraîche.
Quand on voit Federer dans un vestiaire ou sur un cours. Quand on voit Federer sur un court de tennis ou dans un vestiaire, on a l'impression qu'il vient de débarquer, qu'il a jamais vu un court de tennis et qu'il va jouer son premier match. Il est ultra frais.
Et à quoi vraiment. Ça tient, d'après vous?
Il a une passion totale pour. Pas seulement le tennis, c'est toute la profession. C'est-à-dire qu'il aime s'entraîner, il aime matcher, il aime répondre à des journalistes, il aime consacrer des heures à des partenaires, il aime tourner des spots publicitaires, il aime signer des autographes, il aime 100% de la profession.
La rumeur dit que c'est le plus gentil de tous les joueurs. Vrai, faux?
C'est un gars à part, c'est un gars formidable, c'est quelqu'un qui...
Ok, l'homme de bois, t'as vu le mec qui est venu.
C'est un gars à part.
En langue des signes, Fabrice Abgral a dit autre chose.
Non, Roger
est très gentil.
Il est
hyper gentil. Mais c'est pas le plus gentil, on va dire.
Il a un ego important, ce qui est nécessaire pour tous les grands champions. Mais c'est un hyper gentil, simple. Je crois que le tennis est un sport encore plus que n'importe quel autre qui rend hyper humble. Parce que chaque semaine, on prend des claques quand on est joueur de tennis. C'est-à-dire que là, Roland-Garros, il y en a 128 qui jouent, il y en a 127 qui vont perdre.
Donc, oui, c'est vrai.
Donc il y en a 127 qui vont se remettre qui vont se reconditionner, qui vont se remettre en question quelque part.
Bah si, pourquoi tu me dis non, Daniel?
Mais non, mais il y en a la moitié qui passe.
Il y en a qu'un qui gagne.
Ah, au bout du compte, je crois que c'est la journée.
Sur Roland Garros, on a 127 qui vont perdre.
Tu comprends que tes vannes, tu comprends pas les vannes des autres.
Non, c'est ça. Mais je bloque. Je n'aime que
donc,
moi.
Donc voilà, donc le 12 juin, eh bien, il y en a 127 qui diront bon ben on a pas réussi à soulever le trophée. Et c'est comme ça chaque semaine. Après ils vont partir au Queens, il y en aura 32, il y en a 31 qui vont
c'est
perdre
un super
et c'est comme
club.
Ça chaque semaine. Donc forcément, ça rend hyper humble, c'est un espèce de combat de boxe, des espèces de gros face-à-face où au milieu d'une arène où c'est très exigeant, très compliqué sur le plan mental. Un jour on a le public avec soi, le lendemain on se fait siffler pendant tout un match. Enfin, il faut se remettre au boulot en permanence, c'est pas simple.
Alors justement, comment gérer l'après? C'est-à-dire à partir du moment où vous avez décidé de ne plus jouer dans les tournois professionnels, de continuer de jouer, quelle a été votre démarche? Est-ce que vous étiez préparé? Vous aviez fixé cette date? Vous aviez dit précisément à tel âge j'arrête? Ou si à tel classement j'arrêterai? Quel a été le signal pour que vous raccrochiez les raquettes?
Moi, le signal n'a pas été en termes de classement, puisque quand j'ai arrêté, j'étais 50e mondial. La seule chose, c'est que ça faisait 21 ans que je voyais ma valise dans la chambre, chez moi, et j'en avais marre. Je voulais juste ne plus voir ma valise, parce que chaque semaine, je faisais une valise, je la défaisais. Et 8 mois par an, j'étais à l'hôtel, et j'avais plus la force de voyager, j'avais plus la force d'aller m'entraîner, car pour être capable de jouer devant 15 ou 20 000 personnes sur les gros tournois, il faut être capable de s'entraîner 4-5 heures par jour dans les sous-sols, quoi. Sinon, ça sert à rien, on est ridicule devant le public. Et moi, j'avais plus cette force-là, et on m'avait dit, Fabrice, le jour où tu n'auras plus envie de...
Là, c'est une force mentale, pardon, c'est pas physique.
C'est pas physique du
c'est
tout.
C'est mental, d'accord.
On m'avait dit, le jour où tu n'auras plus envie d'aller t'entraîner, arrête, parce que tu vas prendre le mur. Et donc, j'ai décidé d'arrêter alors que j'étais 50e. Et je ne regrette pas du tout cette décision, puisque je pense que quand on est sportif de haut niveau, il y a trois façons de mettre un terme à sa carrière. Soit vous êtes sur un lit d'hôpital avec une énième opération du dos ou de l'épaule, et à ce moment-là, les médecins vous disent jette l'éponge parce que tu ne pourras jamais revenir. Donc, c'est très difficile à accepter parce que ce n'est pas votre décision. Soit vous passez de la 20e à la 50e, puis la 100e place mondiale, à ce moment-là, c'est la concurrence qui vous met dehors. Donc pour l'ego, c'est pas facile. Soit vous décidez de vous-même. Et j'ai choisi cette troisième option qui me semble être de loin la meilleure.
Et quand vous avez décidé d'arrêter, vous aviez pensé avant à l'après? C'est-à-dire vous avez dit, j'ai envie d'être entraîneur, j'ai envie d'être consultant à la radio ou à la télévision, j'ai peut-être proposé mes services à la Fédé pour encadrer une équipe de France de Coupe Davis. Enfin, qu'est-ce que vous aviez envie? Qu'est-ce qu'il y a comme possibilité? Parce que le problème,
être
c'est que...
Être prêtre?
Il y a plus de... Pardon l'expression, mais il y a plus de retraités sportif que de poste. Donc à un moment donné, il faut bien choisir.
En fait, moi, pendant ma carrière, je me suis régalé. C'était à refaire, je faisais exactement la même chose, mais j'avais beaucoup de frustration quand même. Parce qu'on fait que ça, on fait du matin au soir. Et dès qu'on a 2 heures de break, il faut se reposer. Puis quand on a fini de se reposer, il faut aller se faire masser, puis s'entraîner. Et en fait, on n'a pas de place pour une autre activité. Donc j'avais toute une liste de choses que je voulais faire en fin de carrière. Et je suis très, très occupé aujourd'hui. Je fais effectivement de la télévision. Je travaille beaucoup sur Bein Sport.
Consultant pour ITV, pour Roland Garros.
Les 15 jours de Roland Garros, je les commente en anglais, donc sur ITV Sport. J'interview les joueurs.
Ça te calme, ça, ou pas ? Ça te calme, hein, ça calme un peu, oui. Il y a un mec qui vient de Londres, c'est tout, mais sinon.
Dans le public.
voilà, ensuite, sur pour l'organisation du tournoi, j'interview les joueurs, donc sur les principaux cours, le central, le Suzanne Lenglen. Donc je rentre sur le cours après.
Public.
Pour le public, c'est diffusé donc dans le stade et puis sur je sais pas dans combien de pays en direct. Et puis je fais des matchs exhibition parce que je rêvais de jouer un double avec vous. donc on joue régulièrement ensemble.
Mais blague à part, quand ces occupations, dans les possibilités qui vous étaient présentées, c'est d'abord le consulting, le commentaire à la télé ou à la radio qui vous attirait?
Moi, je voulais vraiment travailler dans les médias. J'avais vraiment, j'ai toujours passé beaucoup, beaucoup de temps à analyser mes matchs et ceux des autres. Donc, je voulais partager cette analyse avec le grand public.
Alors qu'il détestait venir en conférence de presse.
Non, j'étais un très mauvais client. Non, mais très mauvais client, hyper timide. J'arrivais de ma province, je voyais des micros partout, je savais pas ce qui m'arrivait. Quoi.
Et le fait d'être un ancien joueur et de tendre son micro en posant une question, ça ouvre des vannes, ça facilite la réponse, c'est-à-dire celui qui est en face, il sait que vous savez, il sait de quoi vous parlez. Ça, vous obtenez plus qu'un journaliste comme Fabrice Abral ?
Il obtient rien, lui.
Mais bien sûr, je serai jamais aussi bon qu'un professionnel parce que j'ai pas la formation. Mais j'obtiendrai plus qu'un journaliste, c'est évident. Parce que
humainement.
Parce qu'à partir du moment où le gars me voit arriver, déjà il me tape dans la main, il est content, on s'est joué, on s'est croisé dans le vestiaire 2 heures avant. Il sait que je suis pas là pour le piéger. Il sait que je suis là pour valoriser son travail, à l'inverse d'un journaliste.
Non, mais
vous êtes resté avec bien, quoi.
Non, mais voilà, je suis pas là. Je suis là.
Journaliste sportif, il piège rarement, quand même. Hein,
non, mais parfois.
Il y a un mot trop dangereux.
Moi, je vais pas aller le titiller là où ça peut faire mal sur un fait de jeu.
Est-ce que un joueur sait que vous savez des choses que vous ne direz pas parce que il y a un respect mutuel et il y a des choses qui doivent rester dans le vestiaire, comme on dit, et pas sortir.
Bien évidemment.
Quoi, par exemple?
Trop fort.
Ok, j'aurais essayé.
De toute façon, quand on a le même dealer, c'est difficile de faire.
Il y a encore des scandales
de
dopage dans le monde du tennis?
Il y en a dans tous les sports, donc je vois pas pourquoi le tennis serait complètement épargné.
Je sais pas, j'ai raté. Il y a une info.
Apparemment, Nadal à tout prix, donc c'est plus rien pour lui.
Il est chargé. La rumeur, c'est Nadal est chargé.
Mais non, mais non.
Nadal Morin, assume ce que tu viens de dire.
Non, mais le truc, c'est quand on parle de dopage, il faut amener des preuves, parce que ce sont des sujets qui sont trop graves, quoi.
Alors déjà, physiquement, je peux pas le rattraper, Nadal, pour faire un prélèvement, une petite biopsie.
Et Rafa est un immense joueur, et je sais très bien que tout à l'heure, quand Fabrice Abgral parlait du joueur le plus sympa du circuit, le plus sympa du vestiaire, il faisait référence à Rafa.
Ah, vous pensez
qui est
à
un
Rafa.
Mec fantastique. Vous faites un sondage dans les coulisses de n'importe quel tournoi au monde, Rafa fait l'unanimité. C'est un gars qui est extrêmement bien éduqué, simple, humble, à un niveau qui est presque anormal.
Louche.
Il a quand même gagné 14
Louche.
Grand Chelem, 9 Roland Garros. C'est-à-dire que là il est à 5 matchs de remporter un 10e Roland Garros. 10 fois le même tournoi de Roland Garros. Nous, on n'a pas gagné un grand chelem en France depuis 83. Il a gagné 10 fois le même.
Ok, ça va, c'est pas notre faute non plus.
Non, mais moi, j'ai eu 70 chances, donc je peux en parler.
France Inter, les meilleurs moments de la bande originale avec Nagui.
Je viens à la gentillesse de nous offrir un medley de ces chansons qualifiées de confidentielles et vous allez voir à quel point elles résonnent encore dans votre cœur. Julien Clerc en live dans la bande originale.
Comme un volcan devenu vieux. Mon cœur bat lentement la chamade. La lave tiède de tes yeux coule dans mes veines malades. Je pense si souvent à toi que ma raison chavire. Comme feraient des barques bleues et même les plus grands navires. J'ai la raison à raisonner dans un port désert dérisoire. Toute ma vie s'est arrêtée comme s'arrêterait l'histoire. J'ai la raison à raisonner dans un port désert dérisoire. Toute ma vie s'est arrêtée comme s'arrêterait l'histoire. Ce soir je viens me glisser dans tes rêves, dans cette mer que le désir soulève. Laisse-moi faire de toi mon trésor. Comme Harpagon à genoux sur son or. Tes paupières de fièvre sont à moi, tes frayeurs, tes rêves sont à moi, sont à moi. Jaloux, tout, 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 oui, jaloux. Jaloux et jaloux de tout. Loco, 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 c'est le nom qu'il me donne et qui veut dire fou. Et dans ce monde où tous les hommes se croient debout, je suis le seul à me vanter de me traîner à tes genoux. Loco, 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 c'est le nom qu'il me donne et qui veut dire fou. Et dans ce monde où tous les hommes se croient debout, je suis le seul à me vanter de me traîner à tes genoux. Attends. 2, 3, 4, 1. Qu'on l'appelle Venise, vous me voyez, œil oreillé, la voix soumise en gondolier, accueillant pour une cerise, pour un baiser. Elle voulait qu'on l'appelle Venise, quelle drôle d'idée, quelle drôle d'idée, ah, quelle drôle d'idée.
Cœur volcan, jaloux de tout, balade pour un fou, elle voulait qu'on l'appelle Venise et tout ça en live dans la bande originale, bravo.
Et ça sur les confidentiels.
Ouais, c'est ça, c'est celle qu'on, connaît,
c'est
pas.
Celle qu'on connaît pas.
Tout à l'heure, on aura celle qu'on connaît, tu verras, ça va être un truc de dingue.
La bande originale, les meilleurs moments sur France Inter.
Voici l'humeur de Guillermo Gouy.
Ah oui, yes. Allez Guillermo.
Bonjour les amis.
Salut. Non.
Alors,
c'est chiant.
Alors, certains parmi vous l'ignorent et par certains, j'entends cette table, le public, les micros, les chaises et le tapis plein. Mais figurez-vous qu'avant de devenir le souffre-douleur officiel de Leïla Kadour Boudadi et la septième roue du carrosse dans la bande originale, eh bien, j'étais aussi journaliste. Et oui, ça se voit pas parce que ça se voit pas parce que je m'exprime mal, ouais. Mais c'est vrai. Et j'ai entre autres été spécialisé dans les séries télé. Et à ce titre, je peux vous dire que Le Bureau des Légendes est sincèrement ma série française préférée de tous les temps, loin devant Maggie et Nestor Burma. Et Dieu sait qu'il avait la classe, Burma, ouais. À sa façon, mais il avait la classe. Mais j'adore votre série et j'ai même présenté Le Bureau des Légendes dans un festival bruxellois avec votre producteur Alex Berger.
Alex, ben voilà, ça a dû être chargé à la buvette, hein, parce que toi et Alex Berger à la même buvette, ils devaient vider les stocks.
Voilà, il n'y avait pas de vanne, c'est juste que j'ai envie de m'assurer la sympathie de nos invités pour la suite de ce billet. Suite de billet qui, le hasard faisant merveilleusement bien les choses, tissera un lien fortuit bien qu'habile entre le Bureau des Légendes et le toujours si exotique Donald Trump. Uh-huh. Ah, évidemment, qui vient manifestement de griller l'identité d'agent infiltré auprès de Daesh. On peut lui reprocher ce qu'on veut à Trump, mais tout le monde disait il va faire n'importe quoi. Et je dis enfin un homme politique qui tient ses promesses. Hein, t'as pas le temps de finir une vanne sur un scandale qu'il est déjà passé au scandale suivant. prends ça, Patrick Balkany. Hein, t'as encore tout à prendre, mon petit one. Il est trop fort, Trump. Le Washington Post, il sort qu'il a dévoilé des infos top secret à des dignitaires russes. Et là, t'as son conseiller à la sécurité nationale qui dit non, c'est faux. Enfin, vous imaginez bien, ne tombons pas dans la stigmatisation gratuite. Mmh. Donald a beaucoup de défauts, mais là, quand même, de là, et le lendemain, t'as Trump qui fait bah, si. Je suis président, quoi.
Je dis ce que je veux.
Si, je veux cuire mes pâtes pendant 20 minutes, je cuis mes pâtes 20 minutes, quoi. Qu'est-ce qu'il y a, ça, je leur ai donné l'identité d'agent infiltré, c'est pas non plus que ça va, quelle bande de rabat-joie, quoi. C'est pas comme si j'avais filé la recette du coca ou tu vois, un truc vraiment secret, quoi.
Plus grave.
Oui, franchement, mais Trump, en tant que président, il peut classifier et déclassifier ce qu'il veut. Je suis sûr, il a accès à tout, en fait, et il est hyper curieux. Je suis sûr que dans un mois, il va tweeter, genre, je suis allé regarder pour Kennedy. Apparemment, c'était vraiment Oswald, quoi. Moi aussi, je suis déçu, comme tout le monde. Je vais voir pour le 11 septembre, je vous dis quoi. Allez, salut les fans 12. C'est vrai. Par-delà, on lui reproche d'avoir trop parlé avec des dignitaires russes. Des dignitaires russes. Sans blague, moi, tu me laisses 2 heures dans une pièce avec des Russes, j'avoue même des trucs que je connais pas, quoi. Après 17 vodka, moi, j'ai le sens du secret d'un enfant de 4 ans. Franchement, moi, je leur dirais tout aux Russes, tous les petits secrets de la bande originale. Tu vois, que Nagui et Morin, ils peuvent pas se saquer. Albert Algou, il écrit des sketchs pour Laurent Gérard. Que Leïla ne lit pas tous les livres dont elle parle. Que moi, dans la vraie vie, je suis pas forcément toujours d'extrême gauche. Je mettrais vraiment la réputation de France Inter à sac, que ce serait un carnage. Il faut imaginer Trump avec les deux types en question, hyper fier des infos qu'il a parce que c'est un winner et tout, et qu'il leur dit regardez cette photo, là il y a 4 mecs avec des barbes. Sur les 4, il y en a un qui est infiltré. Le premier qui devine qui c'est un shot. Ah, moi je ferais pareil. On est tous pareil. Je suis sûr que Macron même il ferait pareil. La dernière fois qu'il a croisé Pujadas, il lui a dit mec, vérifie tes textos. Je peux rien te dire. Je peux rien te dire, mais vérifie tes textos. Quand t'es président, t'as plein d'infos qu'au fond de toi t'as envie de partager avec les gens, quoi. C'est vrai, là Macron il va dire aux Français si vous manifestez pas pendant, allez, genre un mois, je vous montre la sextape de Valbuena. Je la montre. Et je me dis, quel joueur du PSG a parié 6-1 sur Unibet? Franchement, c'est ça le pouvoir. Faire ce que tu veux, quand tu veux. Et créer ta légende. Allez, bonne émission, les amis.
Merci, Caro.
France Inter. Les meilleurs moments de la bande originale avec Nagui.
Sarah Giraudeau et Jonathan Zakaï sont nos invités pour cette série initiée par Éric Rochant, parce que Canal+ avait souhaité au début de la série d'ailleurs voir plus d'action. Vous avez ce sentiment d'ailleurs qu'au fur et à mesure il y a plus d'action?
Oh là oui.
Ouais.
Non, c'est pour ça
mais
aussi.
Tout en gardant la part de psychologie, mais la psychologie joue beaucoup, mais ça.
Bah oui, parce que c'est un univers qu'il faut. La première saison, ils établissent aussi tout l'univers, donc il faut une explication des personnages. Rentrer doucement dans la. Donc, effectivement, il y a beaucoup de gens qui, je pense, ont pensé que le rythme était un petit peu lent, mais il y avait quelque chose où il fallait établir vraiment des bases pour après partir. Déjà, sur la longueur de la saison 1, ça évolue, et après saison 2, saison 3, il y a beaucoup plus d'action.
Vous tournez où?
Maroc et Paris.
Maroc, géographiquement, d'accord.
Il y a de nouveaux personnages.
Pardon?
Il y a de nouveaux personnages.
Il y a Artus.
Oui. Ouais, qui font leur entrée dans la série. Ouais. Je trouve très drôle en plus, donc je l'aime beaucoup.
Elle est super.
Dans la bande originale, voici quelques dates que nous avons choisies de votre carrière. Et on vous a demandé ce que vous écoutiez comme musique. Mais comme j'ai l'impression, on leur a dit, l'émission s'appelle la bande originale, ils ont choisi beaucoup de bandes originales. Donc comme ça, au moins, on est dans l'esprit de l'émission. En 96-97, premier film et apparemment un très bon souvenir pour Sarah Giraudeau qui écoutait... Donc c'est une bande originale, hein, ça.
Ah bah oui, mais c'est un petit peu vous qui avez choisi. Moi, quand on m'envoie 96-97, meilleur film, meilleur souvenir, c'est pas moi qui ai choisi de parler de ma meilleure période. On veut me faire parler du film de mon papa.
D'accord.
À un moment donné, mais c'est pas moi qui ai choisi.
D'accord, on choisit des dates absolument d'accord avec vous. Pour équilibrer.
Je sais très bien, mais à 72 ans, je ne me séparerai toujours pas de mes parents. Je le sais.
Si vous avez envie de dire, à ce moment-là, j'écoutais Madonna ou Michael Jackson, vous avez le
droit
aussi.
Non, j'allais mettre la musique du bal des vampires, mais je trouvais ça bizarre de parler, comme je voyais quand même que vous aviez envie de parler de ce Caprice d'un fleuve, qui est un vraiment un très beau souvenir, je me suis dit autant mettre la musique Caprice d'un fleuve, parce que je vais pas mélanger la musique du bal des vampires avec enfin, des souvenirs qu'on
à Madonna, on avait le droit?
Oui.
Ouais. Ah merde. Michael Jackson aussi?
Aussi.
Britney Spears aussi.
Britney Spears aussi. Black Eyed Peas, enfin tout, quoi.
Nicole Croisi aussi.
Et Josh Jonathan aussi?
Non,
aussi.
Non, Nagui,
pas Josh Jonathan.
Si, bien sûr. Donc, vous avez 11 ans quand vous tournez une scène avec votre formidable papa dans ce film, Les Caprices d'un fleuve. Quel est, s'il y avait un souvenir à garder? 11 ans, est-ce qu'on a conscience de ce qu'on est en train de faire exactement?
Ben non, moi c'est très bizarre parce que je pense qu'il y a plein d'enfants, ils nous disent à 4-5 ans je rêvais d'être une star ou je rêvais de faire ci. Mmh. Moi pendant très longtemps j'ai absolument pas rêvé de faire ce métier. Mais c'est vrai que c'est la première fois où je me suis dit, je me rendais même pas compte que c'était un métier, mais il y avait quelque chose d'extrêmement agréable. Dans un tournage, c'était très, très particulier.
Qu'est-ce qu'il y a d'agréable dans un tournage? Parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de temps d'attente.
Une espèce d'effervescence comme ça, où c'est, voilà, c'est une espèce de petite, où chacun a sa grouille, une petite fourmilière, où chacun a son petit.
Il y a la table régie. Ouais.
Tous les métiers sont très bien définis, chacun fait ses petites choses, et en même temps, voilà, il y a ce silence ambiant. Et,
on s'occupe de vous quand vous êtes une petite fille aussi, j'imagine.
On s'occupe de nous, mais on m'avait chouchouté, on m'avait frisé les cheveux. Enfin, donc enfant, il y a tout pour. Même la longue attente n'avait pas été quelque chose de
saoulant ou de contraignant. Non. Vous vouliez être styliste quand vous étiez petite fille?
À un moment donné, oui. Ouais, ouais. Pendant pas mal de temps, j'ai voulu être styliste et j'ai bien fait de ne pas travailler dans la mode. Je pense.
En 2010, Jonathan Zakaï, vous tournez pour Ridley Scott et là vous écoutiez la bande originale.
Non mais là je suis désolé, mais
quoi,
si on me demande une bande originale, je mets toujours celle-là de toute façon. Si je suis obsédé par Sergio Leone et le Morricone.
On n'a pas demandé une bande originale, on a demandé ce que vous écoutiez comme musique.
Oui, c'est vrai, mais j'adore cette musique.
Ok, on écoute.
La soupe aux choux.
Il était une fois la révolution. Ennio Morricone.
C'est vrai que c'est bien ça.
Et là vous jouiez
le. C'est un grand film. Énorme film, il était une fois la révolution.
Oui, absolument, absolument. Vous jouez sous la direction de Ridley Scott, le roi de France.
Tout à fait.
Philippe Auguste.
La classe.
Dans Robin des Bois. Comment on tombe dans un casting choisi par Ridley Scott?
Bah écoutez, là, c'était vraiment surréaliste parce que j'ai fait ce casting par...
Internet
mon, dans mon salon, ouais.
C'est vrai?
Oui, oui. Ouais, c'est ma femme qui me donnait la réplique. J'étais devant la télé. On a arrêté les infos. J'ai fait mon truc. Et puis on se retrouve dans un film dans le film. Parce que c'est vrai que les essayages de costumes, c'est genre la cotte de maille qui vient de Florence, les bottes qui viennent de je sais pas où. Enfin, c'est un travail. C'est beau de les voir travailler comme ils travaillent.
C'est et puis de l'artisanat, vous voulez dire?
Oui, chaque devait être costumes, fidèle. Ouais, tout est tellement. Tellement travaillé, tellement. Donc déjà, c'est sublime. Et puis après, on arrive sur ce plateau incroyable avec, je sais pas, il y a 600 personnes dans l'équipe en tout. Donc, on se dit que ça va être assez impressionnant. Et puis en fait, c'est super agréable de travailler comme ça. Parce que...
Et c'est agréable de jouer à un sale type? Puisque c'est comme ça que Ridley Scott vous a présenté le roi de France.
Oui. En fait, il avait adoré la reine Margot. Et sa référence, c'était le personnage de Anglade, qui est d'ailleurs vraiment exceptionnel dans la reine Margot. Et donc c'était ça sa référence en fait pour le roi et de jouer un sale type, c'est toujours très agréable de jouer un sale type en fait. Oui, oui. Non mais c'est vrai.
Anagui.
Je ne joue pas moi.
C'est ça. Encore mieux là.
Il y a ça dans le sang. Hein.
Et il y a eu également Blanc comme neige de Christophe Blanc, L'âge de raison de Yann Samuel aux côtés de Sophie Marceau, Quartier lointain de Sam Gabarski. Il y a eu. Quel a été le détonateur finalement de votre carrière? Le film qui en effet domino a fait venir tous les autres?
Oh bah écoutez, en fait, il y a jamais eu vraiment de détonateur et en même temps, il y en a toujours eu un peu, quoi. Donc c'est non, mais alors, parce que les gens dans notre métier nous disent toujours, ah là, tu vas exploser là. Ça, c'est le film qui va te faire exploser, quoi. T'as envie de dire, mais
tu vas te faire exploser,
on est obligé d'exploser, juste faire son métier tranquillement. Non, mais c'est vrai que le rôle de sa vie avec Agnès Jaoui, Karine Viard, ça a été quand même un film qui m'a vachement aidé. Audiard, évidemment.
J'imagine, oui, c'est ça. Il doit y avoir un rôle dont on vous parle régulièrement.
J'avais fait le Tango Rachevski, qui était un film qui avait pas mal marché. J'ai fait deux films avec lui. Voilà, donc c'est fait. Voilà.
Super. En 2000, prévenez-moi quand vous arrêtez une phrase au milieu. Parce que là,
c'est arrêté sans moi, en fait. C'est ça le problème. C'est pas moi qui me suis arrêté, c'est la phrase.
C'est marrant parce que vous parlez d'Agnès Jaoui et vous faites ça. Et Agnès Jaoui nous fait ça souvent en interview. Elle parle, elle raconte comme ça, elle dit. Et à ce moment-là, elle est arrivée et fin de la phrase. Et elle nous dit comme ça, elle nous dit fin de la phrase, en plein milieu, en plein suspens. Vous avez ce point commun avec Agnès Jaoui. Mais faites-moi un signe de la main, je comprendrai. En 2012, Sarah, vous incarnez Jeanne d'Arc au théâtre et vous écoutiez Guinzou. Non, pardon, c'est vous qui écoutez Guinzou. Vous écoutiez la bande originale du film Le Parfum.
Désolée. Hein.
On a plombé l'ambiance. Non, vous pouvez, c'est pas l'ambiance. Je me demande comment c'est chez vous quand vous faites des toffes.
Qu'est-ce qui vous a obligé à mettre ce titre-là? Premier, parce c'était Nagui.
Non, parce que c'est une période où j'écoutais énormément de classiques et que le rôle de Jeanne d'Arc était. Bah, j'essaie de lier la musique avec les moments dont on parle, mais c'est vrai que c'était un rôle très particulier, assez mystique aussi, et donc j'ai adoré le parfum et que cette musique a quelque chose.
Et donc pour vous mettre dans l'état d'esprit d'un rôle, vous écoutez des musiques qui vous aident.
Ah ouais, moi j'écoute beaucoup de musique. Ouais. Ouais,
ça vous aide à travailler.
Ouais ouais. Et puis il y a des musiques qui correspondent plus à certains projets. Cette musique-là, il y a une élévation dans cette musique qui me faisait beaucoup de bien quand j'étais en train de jouer. Jeanne d'Arc, voilà.
Et le théâtre, c'est une contrainte de tous les soirs reproduire un même texte, un même jeu, ou vous cherchez à le faire évoluer de représentation en représentation?
Ah non, j'adore ça, c'est pas du tout une contrainte. La contrainte, c'est le temps que ça prend, et que quand on a des enfants et qu'on tourne, bah on peut de moins en moins faire de théâtre, ce qui me peine beaucoup. Mais la contrainte, c'est ça au théâtre, c'est le temps que ça prend.
Il faut être à 19h au maquillage.
C'est tous les soirs, c'est toute la semaine, on n'a plus de week-end, on voit plus nos enfants le soir alors qu'ils sont à l'école. Dans la journée, c'est
un sacerdoce.
Voilà.
Vous écoutiez Jonathan pour une fois autre chose qu'une bande originale. Excellent groupe, Ginzu. Et là, vous devenez réalisateur.
Oui, mais j'ai, justement, en fait, c'est pas une bande originale, c'est Ginzu, mais c'est aussi que j'ai fait un film avec très peu d'argent. J'ai fait un film vraiment un peu à la sauvage. Je me suis autoproduit. J'avais fait ce film, puis MK2 m'a aidé à le sortir, tout ça. Ouais, c'est une expérience assez incroyable parce que je l'ai fait en 10 jours avec peu d'argent. Et quand vous faites un film, vous avez besoin de musique. Et la musique, ça coûte de l'argent.
J'y sais comme Jésus-Christ.
Et Ginzu, en fait, je connaissais John David, le chanteur, depuis longtemps. Et j'aime beaucoup sa musique. Et ils ont été super avec moi. Ils m'ont prêté quelques titres. Que je puisse,
libre de droit pour pas vous obliger à payer ou à débourser des sommes indécentes.
Quand vous n'avez pas d'argent pour faire un film, vous arrivez à avoir des choses que vous n'auriez peut-être
pas de musique.
Avec du budget.
Ah, d'accord, voilà.
C'est ça. Parce que
l'envie d'aider à la caméra, vous l'aviez toujours, cette envie, gamin,
vous avez fait des courts-métrages. Ouais. Exactement, et puis après j'ai fait ce film. J'avais eu un problème pour financer mon premier, donc je l'ai fait un peu comme ça pour ces raisons-là, parce que j'avais envie de faire. Et puis là, j'espère en faire un deuxième un peu mieux, avec un peu plus de moyens et un vrai scénario cette fois-ci, peut-être aussi, ce serait bien.
L'envie de faire un film, c'est l'envie de diriger, l'envie de cadrer, l'envie d'écrire une histoire, de raconter, de faire passer un message ou des valeurs. Quel est le point de départ d'un film
c'est une envie de raconter des histoires différemment, avec plus de distance. Et puis je trouve que, Almodovar, je ne sais plus exactement ce qu'il disait, mais vaguement en tout cas, je trouvais ça super. Il disait, je ne suis pas vraiment écrivain, je ne suis pas vraiment acteur, je ne suis pas vraiment... Et du coup, je fais des films et je trouve que cette envie d'être un peu partout, ça correspond à cette envie de réaliser, quoi. C'est qu'on peut prendre la distance. Et je crois que je vais avoir une phrase qui
je
la sens venir.
J'étais en train de surveiller, j'étais prête à dire super.
Et en même temps, on est un peu le dieu sur le plateau, c'est-à-dire que tout le monde vous regarde et c'est vous qui décidez de.
La radio aussi. Hein.
On tourne, on tourne pas. Est-ce que
dieu sur le plateau, ça c'est vrai que j'avais cette impression quand j'ai vu Ridley Scott. Je m'en rappelle quand il est parti avec sa Jeep dans le studio comme ça, la dernière scène. Ce mec est un amiral, quoi. Enfin, c'est dingue, quoi. Par contre, quand vous êtes sur des films en général, vous avez quand même beaucoup de gens qui vous assaillent avec des questions, avec des choses. Donc, pour être Dieu.
Bah oui, vous êtes la référence. Donc, c'est à vous qu'on pose la question.
Dieu, on pose beaucoup de questions à Dieu. Donc, du coup, c'est le sentiment de puissance est doublé du sentiment de devoir donner beaucoup de réponses aussi, de responsabilité.
Oui, mais vous êtes le seul responsable, ne serait-ce que pour la coupure déj, autant de on reporte la journée parce qu'on n'a pas la météo que l'on veut, ou si on va continuer jusqu'à 3h du matin parce qu'il faut absolument que ce soit en boîte avant la fin de la soirée. Tout dépend de vous êtes le seul à décider.
Ouais.
Avec peut-être des producteurs.
Vous devez connaître ce problème, Nagui.
ça fait pas rêver tout le monde, quoi.
On n'est plus dans un truc artistique, on est dans un truc de.
Mais c'est ça qui est agréable aussi, c'est que il y a plein de choses dedans, quoi. Il y a aussi la gestion, il y a de l'équipe, évidemment, et puis ce que vous êtes en train de faire artistiquement. Donc c'est...
En 2015, c'était la fin de la phrase. Donc en 2015, Jonathan Zekai, vous jouez.
C'est l'homme sans fin de phrase.
Vous jouez dans Intrusion, et dont voici la BO.
Jusqu'au bout.
Ah oui, non, ils ont fait des BO. Ils ont des BO. Ah, vous voulez de la BO? Bah tiens, BO. incarnez deux frères, des jumeaux, en l'occurrence. C'est un exercice particulier, dangereux, où on joue sur des détails pour montrer qu'on n'est pas exactement le même que l'autre.
Ah oui, c'est très 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 particulier comme exercice. En effet, en plus, je jouais un pianiste, donc j'avais des moments j'avais des concerts, je joue pas de piano, donc c'était le travail aussi de mimétisme par rapport à ça. Et puis j'aimerais aussi.
Donc c'était vos mains que l'on voyait.
Pas toujours d'ailleurs, pas toujours, parce d'accord. que d'ailleurs, j'aurais bien pris d'autres mains, en doublage, mais bon, bref.
On vous a pas proposé le. On vous a quand
non,
on
mais je dis
doublé...
ça, c'est pas gentil pour la personne qui
non,
m'a
c'est
doublé.
Non, mais c'est pas.
Les mains, c'est quelque chose de très personnel.
On va dire,
souvent, on nous double nos mains.
Vous n'avez pas reconnu.
T'as remarqué, on nous double nos mains, et puis tout à coup, vous voyez des mains. C'est assez choquant, parce que tout à coup, on voit une main, et puis merde, mais
c'est pas la mienne. Je croyais qu'on vous l'a proposé, je croyais qu'on vous montrait.
Mais normalement, oui, là, c'est vrai qu'on avait un peu oublié. Mais enfin, sur un virtuose comme ça, si en plus, il faut en plus choisir la main plus que virtuose.
Mais celle-là, en plus, c'est bizarre. Vous avez imposé un Marcy pour la doublure main.
Ça serait avec plaisir d'ailleurs. Non, mais j'aimerais aussi.
Mais par exemple, s'il y a une doublure fesse dans un film, on vous propose différentes fesses et vous choisissez quelle sera.
Tout à fait, évidemment, bien entendu. Je suis d'ailleurs resté assez camarade avec certaines doublures fesses de mes films passés. Ça crée des liens aussi en même temps, c'est ça qui est agréable.
France Inter, la bande originale, le best-of, avec Nagui.
Rejoignez Richard Lornac au piano, s'il vous plaît, pour un dernier medley, parce que, comme le disait tout à l'heure Tom Villa, Julien Clerc.
Si on chantait,
bah oui,
si on chantait, si on chantait, si on chantait.
Bravo. Julien Clerc, son album s'appelle Femme, je vous aime, et il nous offre This Melody, par exemple, ma préférence en plus. Que vous voulez, Julien, vous êtes chez vous.
Je vais faire tomber ma bouteille sur le piano.
Comme Gainsbourg.
This melody is a melody for you. Cette mélodie, c'est l'océan entre nous. Cette mélodie d'eau salée et de mélancolie. Dans ton pays, elle te revient parfois comme sa voix, là, comme ça. Je le sais, sa façon d'être à moi parfois vous déplaît. Autour d'elle et moi, le silence se fait, mais elle est. Oui, je sais, cette terre d'indifférence qui est sa défense vous fait souvent offense. Mais quand elle est parmi mes amis de faïence, je sais sa défaillance. Le temps passe, ce n'est rien. Tu sais bien, elles s'en vont comme les bateaux. Et soudain, ça revient pour un bateau qui s'en va et revient. Il y a mille coquilles de noix sur ton chemin qui coulent et c'est très bien. Et c'est comme une tourterelle qui s'éloigne à tire-d'aile en emportant le duvet qui était ton lit un beau matin. Et ce n'est qu'une fleur nouvelle et qui s'en va vers la grêle comme un petit radeau frêle sur l'océan. La grande ville mange la ville, la grande ville mange la ville. Marie si belle, Marie vaisselle, chandelle, plume d'hirondelle, fleur sans colline, fleur en cuisine, Marie sans phare, fleur de brouillard. Si on chantait, si on chantait, si on chantait, si on chantait,
la, 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 la.
Si on chantait,
la, 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 la.
Si on chantait,
la, 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 la.
Paris divine, si on chantait, si on chantait, si on chantait, si on chantait, si on chantait,
la, 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 la.
Si on chantait,
la, 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 la.
Si on chantait, si on chantait.
Et merci à Richard Lornac. Merci, merci.
Bravo.
Merci au merci au cœur.
Bon, Alison.
Daniel.
Merci au cœur des jeunes vierges qui ont accompagné.
La bande originale, le best-of. Sur France Inter.
Maintenant, ça sera autre chose puisque voici Daniel Morin.
Ah, j'adore.
Ah, en France, il existe un endroit où tout est merveilleux. Un endroit à part, perdu dans le 16e arrondissement de Paris. Une maison ronde pleine de vie, de joie, mais aussi de douleur, de jalousie, de bassesse et de grandeur. Bref, il s'y passe toujours quelque chose de fort. Quand pour toi une journée est super, sache que c'est une journée ordinaire à France Inter. Une saga quotidienne avec le surpuissant Patrick Cohen, le névrosé Augustin Trapenard, Nagui, le magnifique, Laetitia Gaillet, la journaliste étrange, mais aussi Laurence, la directrice qui a fait de la prison il y a 10 ans pour avoir tué son coiffeur, Mathieu, le grand patron le plus beau du monde, et bien sûr tous les people qui hantent les couloirs de la radio. Bienvenue dans une journée ordinaire à France Inter. C'est parti. Aujourd'hui, tout est calme à France Inter. Enfin...
En apparence.
Aujourd'hui, en l'honneur de notre invité, toute la grille de France Inter est consacrée à la tolérance. Laurence, la directrice, fait son petit topo.
Bon, aujourd'hui, le thème imposé, c'est la tolérance. Arrêtez de râler comme ça, ça me dégoûte tout autant que vous. Pour une journée, je vous demande de faire semblant, de faire comme si vous aviez un cœur et de la compassion pour les autres.
Pour Nagui, c'est un thème de rêve. En effet, l'enfant du Nil adore ce genre de sujet où on peut faire des caisses sur le partage, l'acceptation de l'autre, l'autre sentiment dégueulasse. Le problème pour Nagui, c'est qu'aujourd'hui, dans l'équipe, il y a le maréchal Ganache, un homme qui, s'il a de multiples qualités, ne connaît pas la tolérance.
Stop ! Ça suffit, Nagui. Vous commencez à nous les briser avec vos valeurs de partage, de transmission, de compréhension. Ce sont des valeurs de petite tapette. C'est avec des conneries comme ça qu'on perd la guerre.
Oui,
pas à rigoler, hein? Parfaitement. Quand on est en guerre, et la vie est une guerre, eh bien, on ne pense pas au bonheur, au bien-être de l'autre. Si on fait ça, on est foutu. Regardez le bilan de François Hollande. Rien ne vaut un bon régime autoritaire comme celui qui nous attend en mai prochain. Et ce qui se passe au niveau national, il faut l'appliquer au niveau familial.
Pour le préciser,
tu ne t'entends pas avec ton fils? Faut-il faire des efforts pour te rapprocher de lui? Négatif. Une paire de mandales dans la gueule, un coup de pied au cul, on le déshérite et basta. Voilà la vérité, Nagui. C'est moche, mais c'est comme ça.
Bon, la tolérance a été évoquée, c'est bien là le principal. Comme à son habitude, Augustin Trapenard a préparé un gros coup pour évoquer la tolérance. Dans Boomerang, son émission que tu crois que c'est la femme, elle te revient tout de suite. Dans Boomerang, le fils caché de la culture et du savoir a invité, pour parler tolérance, Vladimir Poutine.
Oh.
Bonne idée sur le papier, moins bonne dans la réalité. Après qu'Augustin ait déclamé debout, nu sur la table du studio, la Déclaration des droits de l'homme, Vladimir est rentré dans une rage folle. Il a giflé l'animateur, puis les larmes aux yeux, a fait un discours sur la tolérance ennemie jurée du totalitarisme, comme gangrène du despotisme et comme entrave à sa politique de renouveau de la Grande Russie. Ému, Augustin s'est excusé, puis il a signé un traité de coopération avec Vladimir en s'engageant à dénoncer tous ceux qui, sur Inter, diraient du mal de la Grande Russie. Du côté de la matinale la plus écoutée du monde, celle de Patrick Cohen, qui rassemble chaque matin 9 milliards d'auditeurs rien que sur l'île de France, eh bien, Patrick a préféré des actes à des mots. Pour être en phase avec l'esprit de tolérance qui souffle sur la radio aujourd'hui, il a tout simplement décidé d'autoriser ses collaborateurs à s'asseoir autour de la table et pas comme d'habitude à rester debout autour de lui. Un geste fou mais qui provoque une fois de plus que le meilleur animateur, ça le prouve, c'est aussi un homme de cœur. Du côté de l'info aussi, on joue le jeu. La très perturbée Laetitia Gaillet saupoudre son journal de tolérance. Bachar al-Assad est-il un criminel de guerre ? Oui, bon, de temps en temps, c'est pas facile de diriger un pays. Hein. Est-ce qu'il fait en si peu de temps ? Voilà, on peut pas considérer que ce soit mal. Il a la main un peu lourde, mais qui sommes-nous pour lui jeter la pierre ? En France, à présent, Patrick Balkany, une nouvelle fois mis en examen pour fraude fiscale ? Oui, bon, en même temps, quand t'as autant de responsabilités, ça arrive d'oublier de déclarer 1 million ou 3. Qui n'a jamais omis de déclarer quelque chose, comme de la coke ou du shit en passant la douane ? Ah non, 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 je dis pas ça pour moi. Pour cette journée de tolérance.
C'est pour ça que c'est Réming qui fera info.
Tous les styles sont bien sûr les bienvenus. Oui, pour terminer cette journée spéciale tolérance, la radio avait prévu de la poésie engagée avec la lecture d'un texte spécial tolérance et musique lu par Vali. Le problème, c'est qu'on ne comprend pas quand Vali parle. Du coup, la séance a été supprimée.
Quelle enflure.
Mon Dieu, quelle radio. Que de talents réunis dans un seul bâtiment. Bref, aujourd'hui encore à Radio France, à part Vali, c'est pas sa faute. Tout le monde a répondu présent. Et de quelle manière ? La tolérance, tout comme les animateurs, en sont sortis grandis. Alors, tour de force pour certains, mais tout ça, c'est juste une journée ordinaire.
À France Inter. Merci Daniel Morin et à
bientôt. Le best-of sur France Inter.
Des excuses à présenter Daniel Morin.
Évidemment, désolé pour les fans de Jonathan, fans amoureuses ou amoureux, qui ont découvert qu'à chaque saison du Bureau des Légendes, il perdait une partie de son corps. Alors je vous préviens, attention, saison 8, Jonathan se fait arracher les yeux. Attention. Désolé pour l'immense Jean-Pierre Daroussin, acteur multi-récompensé, notamment Outdoor 1988. Voilà, il a été comparé à un inspecteur des impôts avec des cravates ridicules. Ça va pas les gars, et attention, hein, c'est quand même pas Berléand, respectez le monsieur.
Oui, c'est vrai, c'est vrai que c'est pas Berléand.
Et désolé pour tous nos auditeurs contemporains de Léon Zitrone qui ont assisté ce matin à la deuxième mort de leur idole, non pas en entendant l'imitation désolante de Nagui.
La reine rentre dans l'église,
mais plutôt en découvrant qu'il pissait dans sa bouillotte. Rest in peace, Léon.
France Inter, les meilleurs moments de la bande originale avec Nagui.
Dans la bande originale de votre été, voici Gaël Faye, à trop courir.
De mauvaises herbes insoumises, les ardes, les trottoirs. Je ne dors pas, j'ai l'insomnie de ma cité dortoir. Toute ma vie, j'ai rempli mon caddie d'illusions. Moi, je téléphone, je télécommande et je télévision. Silence, on tourne, on vit, on rit, mais ça ressemble à du playback. Mon banquier, c'est James Brown et tous les mois, c'est payback. Des millions d'Andy Warhol s'impatientent sur le quai de la gare pour un quart d'heure de trajet dans le train de la gloire. On veut être star, à l'instar des étoiles, l'intimité s'étale en prime time, se vend sur PayPal. On intronise le médiocre, plus de caviar que du Big Mac. On prépare une pensée fast-food dans les cuisines de l'Audimat. Du pain et des jeux pour calmer les ventres creux, du Xanax dans les meutes, du Prozac pour miséreux. Fermez vos livres s'ils vous apprennent à hésiter. Méfiez-vous à vouloir vivre, on peut finir par exister.
À trop courir après mes rêves, je fais des claquages au cœur. Quand j'y crois plus, je prends la plume pour prendre de la hauteur. À trop courir après mes rêves. À trop courir après mes rêves.
À force des courbes se dessinent sous mon regard somnifère. J'ai voulu décourber les chines à courir après mes chimères. J'ai envolé mes rêves dans des avions de papier. Et j'ai voulu la vie de château en m'endormant dans un clapier. La mer est belle, monsieur, j'ai gommé les nuages. Voyez les valises sous mes yeux, elles m'invitent au voyage. Le ciel est beau, madame, j'ai dessiné l'image. Écoutez donc l'oiseau qui chante, enfermé dans sa cage. Après mes rêves. fabriqué des mondes. J'ai mis des mots et des rires, des pleurs. Et puis le temps, lui, a buriné mes rides. J'ai peur, je cours, je veux d'autres odeurs pour mes narines. Je danse, je tourne, petite ballerine sur baril de poudre. La poésie que je brode, c'est de la dentelle à coudre. Quand c'est l'orage dehors, j'en ai plus rien à foudre. J'ai fait des rêves d'un rien, maintenant j'ai rien que mes rêves. Et c'est leur loi des reins qui fait que je dérive loin au large. J'ai vu mon île, tu sais. Touché au but, j'y vais enfin, j'essaie. Des paquets de rimes pour que mon âme affleure. Je veux faire des victimes avec des armes à fleurs. Je ralentis le pas, je reprends mon souffle, parfois. Et y a mes rêves qui tardent, face au cadran qui tourne. À trop courir après mes rêves, je fais des claquages au cœur. Quand j'y crois plus, je prends la plume pour prendre de la hauteur.
C'était Gaël Faye dans la bande originale. C'est fini pour aujourd'hui. Passez un bon week-end et on se retrouve lundi avec toute la bande.
Merci Nagui. Rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres meilleurs moments de la BO, d'autres best-of de l'été.